Bonjour, au micro Idrissa Sidoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Ici aux États-Unis, le bilan quotidien de la pandémie de COVID-19 est reparti hier à la hausse après deux jours de baisse marquée, avec près de 1900 morts au cours des dernières 24 heures selon l'université Johns Hopkins. Ce rebond porte à 82 246 le nombre total de décès dans le pays, où le bilan était descendu dimanche et lundi sous la barre des 1000 décès quotidiens pour la première fois depuis début avril. Il y a près de 1,37 million de cas aux États-Unis. Le docteur Anthony Fauci, principal conseiller santé du président Donald Trump, a mis en garde ce mardi contre les conséquences potentiellement très graves d'un redémarrage trop hâtif de l'économie américaine. Nous y reviendrons dans un instant. De nombreux pays, dont la Russie devenue mardi le deuxième pays au monde en nombre de contaminations, commencent à assouplir leurs mesures de confinement. Mardi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé avoir été contaminé. La lutte contre le coronavirus pourrait avoir des effets indirects dévastateurs dans les pays pauvres, comme la mort de 6 000 enfants chaque jour dans les 6 prochains mois, victimes d'une couverture sanitaire perturbée par les efforts de lutte contre le COVID-19. Jusqu'à 56 700 femmes pourraient également succomber en raison d'une baisse des soins avant et après l'accouchement, a averti ce mercredi l'UNICEF, appelant à une action urgente. En Guinée, 7 personnes ont été tuées hier à Conakry et dans le nord-ouest lors de heurts avec les forces de l'ordre. Il y a eu 5 morts à Koya et 1 à Doubreka, deux préfectures proches de Conakry, lors de manifestations contre l'érection de barrages pour isoler la capitale à cause du coronavirus, selon le porte-parole de la police à l'AFP. Et à Kamsar, près de la ville minière de Boké, une personne est morte dans des protestations contre les coupures de courant. La victime est morte par balle, selon une source médicale. Au Niger, le gouvernement a décidé hier de lever le couvre-feu à Niamey, la capitale, et d'autoriser à partir de mercredi la réouverture des lieux de culte fermés depuis fin mars pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le gouvernement avait déjà allégé des mesures pour le Ramadan. Selon un bilan de mardi soir, il y a 854 cas, dont 47 décès au Niger. Au Burkina Faso, 8 soldats burkinabés ont été tués dans l'attaque djihadiste de lundi à Kankan Fogoul, localité située dans le nord, près de la frontière du Niger. Un précédent bilan avait fait état d'au moins 4 militaires tués et 4 portés disparus dans cette attaque. Les corps de ces derniers ont été retrouvés sans vie, selon des sources sécuritaires. En République démocratique du Congo, la présidence a annoncé mardi soir la désignation d'un intérimaire à la place de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, au lendemain de l'ouverture du procès pour corruption présumée de M. Kamerhe. La demande de remise en liberté provisoire de ce principal allié politique de M. Tshisekedi dans sa conquête du pouvoir a par ailleurs été rejetée, ont rapporté des médias congolais. Au Lesotho, le premier ministre contesté, Thomas Tabane, compte remettre dès ce mercredi, selon l'AFP, sa lettre de démission au roi, épilogue très attendu de la crise politique qui agite ce petit pays depuis des mois. M. Tabane, 80 ans, est en difficulté depuis qu'il a été mis en cause au début de l'année dans le meurtre de son ex-femme en 2017. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, est arrivé aujourd'hui en Israël pour des discussions sur le projet d'annexion de pans de la Cisjordanie occupée par Israël pour son premier déplacement à l'étranger en près de 2 mois. M. Pompeo doit discuter aussi de l'Iran, ennemi numéro 1 de l'État hébreu. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC. La suite de nos informations. Au Mali, 3 personnes ont été tuées à Kaï, dans l'ouest du pays. C'était en marge de manifestations débutées après qu'un policier a ouvert le feu sur un jeune lundi soir. Eric Manira Kidza.
Des jeunes en colère se sont révoltés dans cette ville de l'ouest malien lundi soir après qu'un policier a tiré et tué un jeune qui s'amusait avec des proches en moto en banlieue de Kaï. Les circonstances et l'identité des deux autres victimes n'étaient pas connues mardi après-midi, mais l'hôpital assure que ces personnes ont été tuées à balles réelles. À la suite de cet incident regrettable, selon le directeur régional de la police de Kaï, Seydou Diallo, un commissariat de la ville de Kaï a été incendié et des barricades ont été érigées sur le pont de la ville. Il a précisé que le policier n'était pas en mission ou encore moins en patrouille. La situation était toujours tendue en ville mardi, a indiqué le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Salif Traoré, qui a ajouté qu'il se rendra sur place. Cette grogne populaire fait suite à l'annonce fin avril des résultats définitifs des législatives de mars-avril qui ont attribué au parti au pouvoir 10 sièges de plus que lors de l'annonce des résultats provisoires. Également en cause, le couvre-feu pendant le ramadan, mais levé samedi.
Le Soudan rejette la proposition de l'Éthiopie concernant le remplissage du réservoir d'un méga-barrage controversé qu'Addis Abeba construit sur le Nil. Khartoum évoque des problèmes techniques et juridiques. Précision d'Abdourahman Dia.
Je ne peux pas accepter la signature d'un accord partiel pour la première phase de remplissage du réservoir, car cela pose des problèmes techniques et juridiques qui doivent être réglés, a déclaré le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok. Le seul moyen de parvenir à un accord complet est de faire revenir toutes les parties à la table des négociations maintenant, a appelé M. Hamdok. Il répondait à un message reçu de son homologue éthiopien Abiy Ahmed, l'exhortant à signer le document. Le Soudan et l'Égypte craignent que le barrage de 145 mètres de haut ne restreigne leur accès à l'eau lorsque le réservoir commencera à être rempli en juillet. Ahmed Saleh, le négociateur en chef pour le Soudan sous la houlette de l'administration américaine, a pour sa part souligné le problème de l'impact environnemental et social à long terme de ce barrage. Le grand barrage de la Renaissance que l'Éthiopie construit sur le Nil Bleu est une source de forte tension entre Addis Abeba et le Caire depuis 2011.
Ici aux États-Unis, le Sénat s'intéresse à la perspective du déconfinement. La commission du Sénat sur la santé a auditionné par visioconférence plusieurs hauts responsables et experts, dont le docteur Anthony Fauci, conseiller du président Trump pour la lutte contre le COVID-19. Le docteur Fauci a mis en garde contre un redémarrage prématuré de l'économie. Précision de Mohamedou Humfa.
Anthony Fauci, figure centrale de la cellule de crise de la Maison-Blanche sur le coronavirus, a prévenu que les conséquences seraient très graves en cas de redémarrage trop hâtif de l'économie en pleine pandémie. Pour le conseiller du président Trump, ce serait dangereux qu'un État, une ville ou une région décide de rouvrir son économie avant que les conditions nécessaires ne soient réunies, notamment une baisse prolongée de l'épidémie pendant 14 jours. Si l'économie redémarre en des lieux qui n'ont pas la capacité d'y répondre efficacement, je crains, a déclaré Anthony Fauci, que nous ne voyons des petites poussées qui pourraient devenir les épidémies. L'épidémiologiste s'est même montré apocalyptique la veille en déclarant au New York Times que les États-Unis risqueraient de connaître des morts et de la souffrance inutile s'il levait les restrictions de façon prématurée. Son message contraste avec celui du président Donald Trump qui insiste sur la nécessité de relancer l'économie américaine mise à mal par la pandémie.
La Minute Éco, Nanit Talani.
En Angola, la milliardaire Isabelle dos Santos accuse le gouvernement d'avoir recouru à la contrefaçon pour geler ses avoirs. Elle a déclaré que ses avocats ont eu accès à des documents judiciaires le mois dernier qui ont révélé des preuves falsifiées, dont des courriels frauduleux et une fausse signature. La fille de l'ex-président angolais est accusée d'avoir détourné plus d'un milliard de dollars des sociétés d'État angolaises. En décembre, un tribunal de Luanda a gelé ses comptes bancaires dans le cadre d'une enquête sur la corruption. le Soudan a annoncé qu'il rejette la proposition de l'Éthiopie concernant le remplissage du réservoir d'un méga-barrage qu'Addis Abeba construit sur le Nil en raison des problèmes techniques et judiciaires qui n'ont pas encore été réglés. Le Soudan et l'Égypte craignent que ce barrage ne limite leur accès à l'eau lorsque le réservoir commencera à être rempli en juillet. Le grand barrage de la Renaissance est une source de fortes tensions entre Addis Abeba et le Caire depuis 2011. Pour terminer, les lanceurs d'alerte qui accusent le président de la BAD, Akinwumi Adesina, de comportements contraires à l'éthique, enrichissement personnel et favoritisme, réclament une enquête indépendante après son blanchiment par un rapport interne. Selon eux, le processus d'enquête du comité d'éthique de la BAD, qui a disculpé M. Adesina de toutes les accusations, a été entaché d'irrégularités et de manipulations.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. La saison de football est définitivement arrêtée au Cameroun. C'est la décision prise par la Fédération camerounaise de football. Après une réunion avec les syndicats des clubs de l'élite et des footballeurs, la commission médicale et celle de sécurité, le club PWD de Bamenda, leader au classement de l'élite One, est déclaré champion et représentera le pays en Ligue des champions CAF. Astre de Douala est le vainqueur de l'élite Tou et Louvre remporte le championnat féminin. En revanche, pas de relégation dans aucune catégorie. Les clubs Yafoot FC et Dragon de Yaoundé rejoignent la première division. Le Cameroun rejoint ainsi l'Éthiopie, Maurice, le Kenya, le Burkina Faso, la Guinée, entre autres, qui ont déjà mis un terme à leur saison. Des nouvelles de futurs transferts, les différents acteurs s'activent en coulisses. D'après l'équipe, l'international burkinabé Bertrand Traoré, qui évolue à Lyon en France, a manifesté des envies pour le championnat espagnol avec une possible signature au Betis Séville. L'autre club de Séville garde aussi un œil sur l'ancien joueur de Chelsea, de même que Newcastle en Angleterre. De son côté, Landry Nguemo, 35 ans, entame une nouvelle carrière. L'ancien Lyon indomptable est désormais l'entraîneur des moins de 18 ans du CES Villers, les Nancy Football en France, une formation régionale. Il complétera parallèlement son brevet d'entraîneur de football. Dans sa carrière de joueur, Nguemo a joué à Bordeaux et Saint-Étienne en France. Il a porté les couleurs de Celtic en Écosse ou encore de Kayserispor en Turquie. Cette saison, il évoluait encore en Norvège, à Kongsvinger. Et puis, une question, est-il encore possible de voir Kevin Prince-Boateng en sélection ghanéenne? La réponse est oui, selon le nouveau sélectionneur des Black Stars, Charles Akounor, qui s'est dit ouvert à l'idée de revoir l'attaquant de Besiktas sous les couleurs du Ghana. Il a été suspendu après la Coupe du Monde 2014 pour une durée indéterminée. Après avoir agressé verbalement le sélectionneur d'alors, Kwesi Appiah, le joueur de 33 ans s'en est excusé récemment lors d'un direct sur Instagram. Ici aux États-Unis, la Fédération américaine de gymnastique a annulé ses championnats nationaux et d'autres événements majeurs prévus à son calendrier de 2020. Les championnats américains de gymnastique artistique féminine et masculine, initialement prévus du 4 au 7 juin à Fort Worth au Texas, auront lieu dans la même ville du 3 au 6 juin 2021. La fédération dit encore travailler à la programmation d'événements préparatoires aux Jeux de Tokyo reportés à l'été 2021, parmi lesquels les sélections qualificatives ainsi que ces championnats nationaux de gymnastique rythmique, acrobatique et de trampoline, dont les dates seront annoncées dans les prochaines semaines.
Écoutez VOA Afrique désormais, partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 474 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains. Du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 474 de Canal Plus.
Le monde. Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sebouya. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Alors que de nombreuses entreprises redémarrent leurs activités au Nigeria, les travailleurs s'adaptent à la nouvelle réalité imposée par la pandémie de COVID-19, notamment des journées de travail réduites, des baisses de salaire et un taux de chômage plus élevé. Le Fonds monétaire international indique que l'économie nigériane va se contracter de 3,4%. Reportage de Timothy Obiezu, repris ici par Abdourahmane Dia.
Emmanuel Noble est une des nombreuses victimes de la contraction économique causée par le COVID-19. Il espère obtenir une réponse à au moins une de ses nombreuses demandes d'emploi. Il a été licencié de son boulot de barman dans une boîte de nuit d'Abuja.
Imaginez une situation où vous restez sans rien faire et où vous n'avez aucune source de revenus. C'est très difficile à supporter. Nous sommes restés chez nous depuis lors. Nous n'avons nulle part où aller, juste dormir, se réveiller, se promener. Rien à faire, aucun engagement.
Les autorités nigérianes ont commencé à assouplir les mesures de confinement, mais elles ont maintenu des restrictions sur les écoles, les institutions religieuses et les entreprises comme les boîtes de nuit, les bars et les jardins publics. Des millions de Nigérians, dont les moyens de subsistance dépendent de ces entreprises et institutions, ont du mal à joindre les deux bouts. Emmanuel Noble fait partie de ce lot.
Il arrive même que je ne puisse pas acheter des unités pour mon téléphone. Je ne peux pas entrer en contact avec les gens. C'est comme dans les films que nous regardons où nous voyons des gens désespérés.
Le Nigeria est confronté au chômage chronique depuis des années. Les responsables du travail prévoient que le taux de chômage pourrait atteindre 33% d'ici la fin de cette année. Le représentant de l'Organisation internationale du travail au Nigeria, Denis Zulu, estime que la pandémie du COVID-19 a empiré une situation qui était déjà difficile.
Au cours des dernières années, nous avons vu une augmentation du nombre de chômeurs et également l'arrivée d'une nouvelle vague de jeunes Nigérians sur le marché du travail qui ne sont pas en mesure de trouver un emploi. Cela a encore aggravé la situation. Si vous y ajoutez la pandémie de COVID-19, la situation devient très préoccupante et pourrait empirer en fonction de l'évolution de cette pandémie.
Pour survivre, les entreprises sont obligées de réduire les heures de travail et les salaires. Denis Zulu.
Nous ne devons pas oublier que certaines entreprises ont encore des difficultés car les semaines de fermeture ont vraiment affecté leur capacité à générer les fonds de roulement nécessaires pour leurs propres opérations commerciales.
Le Fonds monétaire international affirme que l'économie du Nigeria connaîtra une contraction de 3,4% cette année en raison de la chute des cours mondiaux du pétrole dont le pays est largement dépendant.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Au Burkina Faso, un médecin généraliste fait preuve d'ingéniosité en proposant des solutions locales pour lutter contre la pandémie de COVID-19. À Ouagadougou, le docteur Abdallah Ouedraogo est déterminé à sauver des vies grâce à des alternatives bon marché aux équipements importés qui deviennent de plus en plus rares et coûteux. Jacques Aristide.
Pour endiguer le coronavirus, les écrans faciaux, ces masques munis d'une visière de protection en plastique, sont utilisés en complément des mesures telles que les gestes barrières et de la distanciation sociale. Mais ils coûtent cher. Au Burkina Faso, le prix d'un écran facial importé atteint les 6 000 francs CFA. C'est un peu par accident que le docteur Abdallah Ouedraogo a pu fabriquer son propre écran facial.
D'avoir essayé de voir autour de nous qu'est-ce que nous pouvons faire. On a beaucoup réfléchi et un jour comme ça, je suis tombé sur un document, j'ai voulu ouvrir le document. Et quand j'ai voulu ouvrir, c'est le plastique qui s'est d'abord ouvert, pas la page. Quand j'avais ouvert, en même temps, j'ai regardé, j'ai imaginé, mais ce plastique peut nous protéger comme une visière. Et quand nous nous sommes renseignés, le prix d'une visière importée sur le marché tourne autour de 6 000 francs seulement. Alors que dans nos calculs, avec 10 000 francs, nous pouvons fabriquer 100 visières. Donc, si vous comparez, voir, ça veut dire qu'avec 6 000 francs, nous pouvons fabriquer 60 visières. Donc, une seule visière importée, le prix d'une seule visière importée peut servir à fabriquer 60 visières locales ici.
Il n'y a pas que des visières. Le personnel du docteur Ouidraogo propose également du savon liquide fait maison à partir d'un récipient en plastique et d'un évier recyclé placé à l'intérieur d'un support en argile fabriqué par un artisan local. Jeanne Anikiema, sage-femme et coordinatrice du centre médical urbain de Gungunsis.
Quand il voit vraiment quelque chose à faire pour le bien-être, en tout cas, de la population et du personnel, il n'hésite pas. Donc je dirais que c'est un chef exemplaire.
Pour les patients, il y a des masques temporaires confectionnés avec du papier essuie-tout. Ces masques sont jetés après chaque consultation. La coiffeuse Antoinette Bouda est une patiente du docteur Ouidraogo.
Je trouve que ça, c'est très bien parce que des jours, là, on parle beaucoup de la maladie coronavirus. Bon, je pense qu'avec cette casse-nez, nous pouvons nous protéger contre ces maladies.
Le médecin-chef du centre médical urbain de Gungunsis est en fait passionné de recyclage.
Le secret seulement, c'est vouloir se sentir bien. Tu es dans un lieu de travail, tu veux que quand tu viennes pour travailler, que tu te sentes bien. Alors tu veux que les choses s'améliorent. Et les choses ne peuvent pas s'améliorer toi seul. Il faut que tu puisses partager cette idée avec une équipe, que tu puisses les motiver, que tu puisses être d'abord exemplaire d'abord, parce que les gens vont te regarder en réalité.
Le docteur Ouidraogo se veut tout aussi prudent, car il est difficile pour lui de certifier que les dispositifs qu'il a créés répondent aux mêmes normes que les équipements fabriqués à l'étranger. Mais le médecin croit qu'ils peuvent aider les gens à se protéger de la maladie, et selon lui, c'est mieux que rien.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
L'Afrique du Sud entame sa 7e semaine de restrictions pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les autorités affirment que ces mesures ont fait une différence, mais certains acteurs politiques appellent à une levée plus rapide afin de soulager la population qui subit la crise économique. Reportage d'Anita Powell à Johannesburg, repris par Nathalie Barge.
Reconnaissant les conséquences financières et psychologiques des restrictions sur la population, les responsables disent vouloir tenir bon contre une plus grande menace, celle d'un virus meurtrier. Le chef de l'Alliance démocratique de l'opposition, John Steenhuisen, qui est opposé aux restrictions, n'a pas mâché ses mots à l'adresse de l'ANC au pouvoir.
We're no longer dealing with the COVID-19 crisis.
Nous ne sommes plus confrontés à une crise du coronavirus, mais à une crise de restriction, une crise de verrouillage de l'ANC, pour être précis. Soyons très clairs à ce sujet. Il n'y a plus de justification pour maintenir ces restrictions draconiennes. Le gouvernement ne peut même pas nous produire de justification. Ils ne peuvent pas nous montrer le schéma qu'ils utilisent pour décider quand assouplir et quand resserrer les restrictions. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne semblent pas en être sûrs eux-mêmes.
Le pays est en phase 4 d'assouplissement progressif des restrictions, avec un couvre-feu nocturne et une réduction des heures d'ouverture des commerces. La vente d'alcool et de cigarettes est toujours interdite. Plusieurs secteurs de l'économie ont redémarré, mais de nombreux Sud-Africains sont dans l'impossibilité de suivre le mouvement. Shabir Madi, professeur d'immunologie à l'université du Witwatersrand, estimant que les restrictions à elles seules ne suffisent pas, préconise des dépistages plus ciblés et l'amélioration de la qualité de l'eau et de l'assainissement.
Et si nous ne pouvons pas le faire, malheureusement, si nous ne sommes pas en mesure de respecter ce genre de conditions, si nous ne pouvons pas créer un environnement pour que les gens puissent réellement pratiquer ce type d'intervention, nous allons avoir un taux beaucoup plus élevé de transmission du virus. Et le pic avec cette vague sera probablement beaucoup plus important que prévu si ces interventions ne fonctionnent pas.
Notant une augmentation alarmante des nouvelles infections au Cap-Occidental, le ministre de la Santé, Zueli Mkhize, a évoqué un possible retour à un confinement total ou ciblé dans certaines zones où la tension du virus est élevée. Une possibilité contestée par John Steenhuisen.
La vraie stratégie qui se joue ici n'est plus le coronavirus, mais les restrictions généralisées. Parce que ces restrictions vont coûter beaucoup de vies qu'elles ne peuvent en sauver.
Sans préciser quand pourraient être levées les restrictions, le président Cyril Ramaphosa a annoncé une augmentation des tests, dépistages et traitements, tout en estimant que la transition vers la prochaine phase de la réponse au coronavirus, celle du rétablissement, sera plus difficile que la présente.
Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le COVID-19 donne un coup d'arrêt au sport. Avec des championnats suspendus, des compétitions internationales reportées ou annulées, des revenus en baisse, le monde du sport est dans la tourmente. Comment les acteurs du milieu sportif vivent-ils cette situation? Comment peut-on espérer un retour à la normale dans les compétitions sportives? La Coupe d'Afrique des Nations 2021 est-elle menacée? Autant de questions que nous allons aborder avec nos invités ce jeudi 14 mai 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.com.
Le président Donald Trump doit-il remettre ses déclarations de revenus et ses dossiers financiers au Congrès et en procureur de New York? La Maison-Blanche a toujours dit catégoriquement non à cette question. Et ce mardi, la Cour suprême des États-Unis, où le dossier a été porté, a entamé l'examen de la question des finances de M. Trump, c'est un dossier qui touche à la vie privée et à l'immunité présidentielle. Pour les enjeux de ces débats, Bagassi Koura a joint ici à Washington Jean-François Seznek, professeur à Georgetown University.
Beaucoup d'hommes politiques essayent d'obtenir les feuilles d'impôt du président depuis des années, parce que ils pensent qu'ils vont trouver beaucoup d'informations dans ces feuilles d'impôt qui sont extrêmement complexes, qui font plusieurs centaines de pages, sur la façon dont il a fait ses affaires dans le passé, et surtout à long terme, voir comment ces financements, les financements à sa compagnie, ont été faits, d'où ils viennent. Mais aussi, ils pensent que ces feuilles d'impôt prouvaient qu'en fait, le président est pas du tout aussi riche qu'il le dit et n'est certainement pas un aussi bon homme d'affaires que lui le dit. C'est donc, il y a un enjeu politique énorme. C'est pas forcément un enjeu légal ni économique.
Et quels sont les arguments avancés par la Maison-Blanche pour ne pas fournir ces informations que d'autres présidents ont fournies par le passé?
Oui, mais c'est effectivement, la Maison-Blanche a raison de dire que légalement parlant, aucun président n'était légalement obligé de donner ces informations. Bon, la plupart l'ont fait pour des raisons politiques. Mais en plus, ils n'avaient pas vraiment beaucoup d'argent de toute façon. Ils en avaient, mais pas énormément. Tandis que Trump a quand même énormément de compagnies, d'argent dans tous les coins.
Et la question se pose surtout parce qu'on n'a presque jamais eu un président aussi riche comme Trump.
Voilà, exactement, c'est ça. Et puis surtout, on n'a jamais eu un président qui vous dit tout le temps que lui est le plus riche et le plus intelligent du monde. Donc, si vous voulez, il se crée ses propres problèmes dans un sens.
Et qu'est-ce qui pourrait changer si d'aventure Trump perdait et qu'il devait fournir tous ses documents? Qu'est-ce qui devait se changer dans l'avenir pour les politiciens américains?
Mais je pense que ça deviendrait une constante de la politique américaine que le président doit légalement donner ses informations. Il y aura un précédent, si vous voulez. Et donc, à ce moment-là, si la Cour suprême décide que le président doit donner ses informations au Congrès, si le Congrès le demande, ça va devenir la norme. Alors que pour le moment, ce n'est pas forcément légal. C'est l'habitude, mais c'est pas légalement obligatoire.
Jean-François Seznek, il est professeur à Georgetown University. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Edrissa Seloudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.